BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Cette semaine, retour sur les rencontres de l'UDECAM. On sera avec Thomas Jamel, vice-président de l'UDECAM, pour nous parler de cette journée organisée autour de la simplicité. Comment se traduit-elle aujourd'hui dans les agences médias? Et puis avec Nicolas Morand, planeur stratégique senior de l'agence Australie, et Jocelyne Henry, directrice du développement international de Lonsdale, agence de design et de branding. Eh bien, on va s'intéresser à la crafterisation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on vous dira tout dans un instant. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Pauline Rory, c'est la directrice marketing de Thomas Cook France, qui viendra nous parler d'une opération mailing menée il y a pas longtemps pour développer une meilleure relation de proximité avec ses clients. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Et pour les news, Marie Valogne. Bonjour Marie.
Bonjour Aurélie.
Alors, les professionnels de la publicité ont officiellement lancé cette semaine le label Digital Ad Trust.
Courrier International, Le Monde, West France ou encore Sisplay. Au total, 37 sites ont reçu la certification. Ils ont été évalués sur la base de 5 critères. Brand safety, lutte contre la fraude, visibilité des pubs en ligne, expérience utilisateur et respect des données personnelles. Le label vise à rétablir la confiance des internautes, mais aussi à garantir un environnement plus sûr aux annonceurs. La prochaine vague de labellisation aura lieu dans 3 mois.
Et drôle d'idée de la Fédération française de cardiologie qui nous souhaite une journée pourrie.
C'est ça. Dans une publicité signée par l'agence Human 7, une jeune maman accumule les tracas d'une journée bien compliquée. Café renversé, ascenseur en panne, embouteillage, dernier bus raté, autant de désagréments qu'il a font marcher encore et encore. La Fédération française de cardiologie conclut son film par un message avec humour. On n'a pas tous la chance de passer une journée pourrie. Marcher 30 minutes par jour diminue le risque d'infarctus de 20%.
Et puis c'est la nouvelle publicité de Bagelstein qui a attiré notre attention cette semaine, Marie.
Des morceaux de tomates joliment découpés, des feuilles de salade qui tombent, des produits frais, des images très épurées sur un fond noir. On dirait une pub McDo, sauf que c'est pour des bagels et le slogan diffère légèrement. Repartez comme vous êtes, pas une pub McDo donc, mais bien une pub pour les bagels de Bagelstein.
Frédéric, c'est vraiment du copier-coller, c'est de la dérision, qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est de la dérision, c'est Bagelstein, c'est un peu le fond de commerce, c'est l'humour un peu lourdingue. Donc ils avaient fait déjà des rebondis avec moins de légèreté sur l'affaire Weinstein il y a quelques mois. Et voilà, quoi, ils ont un peu tendance à faire ça, mais après tout, ça les fait exister.
Mais c'est, juridiquement, ça craint rien.
C'est un peu borderline. Je pense que McDo est suffisamment gros pour laisser des petits Bagelstein se moquer un peu.
S'amuser. Merci Marie.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Thomas Jamet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil et d'achat médias. Et cette semaine se tenait donc la 11e édition des rencontres de l'UDECAM autour de la simplicité. La simplicité, finalement, est-ce que c'est pas de se passer des agences médias? Je pousse le bouchon un peu loin, mais on a déjà les GAFA, les cabinets de conseil, les annonceurs qui récupèrent en interne leur communication. À quoi vous servez aujourd'hui?
C'est tout l'inverse. Au contraire, le thème de ces rencontres de l'UDECAM, qui donc c'était la 11e édition, donc un événement majeur pour le marché. Plus de 2200 inscrits, quasiment autant de participants dans la salle play était comble. C'est de prendre de la hauteur sur les grands enjeux de notre industrie. Et effectivement, en ce moment, tout le monde se pose des questions. C'est pas nouveau, hein, la désintermédiation, les GAFA, les cabinets de conseil. On a annoncé maintes et maintes fois la disparition des agences médias, leur mort programmée. C'est pas nouveau non plus. Il y a eu plusieurs chocs déjà. Hein, la loi Sapin, il y a maintenant quelques temps. Les agences médias s'en sont tout à fait remis, en fait. Il y aurait un seul risque qu'on pourrait effectivement se prendre dans la figure, c'est de pas aller assez vite. Pour le coup, on est extrêmement légitime sur tous les sujets qui sont ceux du moment. Sur le conseil, sur la technologie, donc c'est notre métier à la base également, hein, de connecter des marques avec des audiences, avec des publics. Et puis la connaissance de ces audiences, grâce à la data notamment.
Donc, en fait, mais plus que des Capgemini ou des Accenture?
En fait, tous les enjeux du moment sont dans notre ADN. Voilà. Donc je répète, le conseil, la technologie et la data. Les cabinets de conseil, c'est effectivement une tendance récente de les faire, de les voir arriver sur nos métiers à nous. On en a absolument pas peur. On travaille avec eux dans tous les groupes de communication. Il y a absolument pas de souci sur toute la partie audit, sur toute la partie de conseil qui est leur cœur de métier. On considère en revanche que notre métier, qui consiste à conseiller les annonceurs sur leur stratégie média, c'est leur à décider quel est le meilleur choix pour un budget donné, pour une cible donnée, pour une marque ou un produit donné. Ça, c'est notre métier depuis toujours. Et je pense que personne, à part les agences médias, sont capables de le faire de manière efficace et de manière implémentée. C'est-à-dire de le faire dans le conseil et dans la réalité, dans la vraie vie. Donc, si certaines entreprises ont envie de prendre notre place et de venir faire notre boulot à notre place, pas de problème qu'ils essayent. Mais je pense qu'ils verront que c'est beaucoup plus compliqué qu'ils ne le pensent et qu'on fait ça depuis maintenant des dizaines d'années que les agences médias existent. Les annonceurs nous font confiance, nous font toujours confiance, de plus en plus d'ailleurs. Et je pense qu'ils se rendent compte que les agences médias sont au cœur du jeu, au cœur des plateformes de communication et sont très légitimes pour les accompagner dans leurs prochains défis.
Frédéric.
Oui, il n'empêche que quand même hier, Yannick Bolloré qui est intervenu cette semaine pendant ces rencontres-là a quand même dit que c'était 2017 avait été l'année de la défiance des annonceurs, qu'il y avait de fait des problèmes à régler, et a reconnu que du côté il y avait des torts du côté des agences médias. Et qu'il fallait peut-être, alors on était dans la simplicité, qu'il fallait peut-être simplifier les rapports que vous aviez avec eux. Est-ce que ce discours-là, vous l'avez entendu aussi? Est-ce que vous l'intégrez aussi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Bah, on l'a notamment très bien entendu, et surtout très bien entendu, parce qu'on a organisé justement ces rencontres, qui étaient l'occasion pour tout le marché, toute l'interprofession, et pour cette industrie des médias, de la technologie, de la communication, de la publicité, qui est un moment de référence. Je le rappelle, effectivement, Yannick Bolloré était là, on avait le ministre de Gérald Darmanin. On avait le directeur général de la MAIF, on avait beaucoup d'annonceurs, donc on avait un plateau de qualité. Et justement, j'allais y venir, cette question tombe à point nommé, parce qu'en fait j'ai l'impression que ces rencontres de UDCAM, c'était vraiment une sorte de consensus. Le thème de la simplicité d'ailleurs était d'ailleurs parfait pour ça. Tout le marché a entendu, je crois que tous on a compris, que ce soit les agences, que ce soit les plateformes, les éditeurs, les régies, et d'ailleurs également les annonceurs, les clients, qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus collaboratif, qu'il fallait qu'on résolve les problèmes de manière beaucoup plus simple, qu'on évite de se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues, et que quelque part, cette espèce de prise de conscience générale du marché, elle est très salutaire. Très salutaire parce que ça va profiter aux annonceurs, ça va profiter du coup en retour aux agences, et je pense que les enjeux de simplification qu'on a pu voir notamment lors de la plateforme avec toutes les alliances que sont des Gravity, des Skyline, qui permettent aujourd'hui, alors non pas de lutter...
un peu complexe, mais bon.
Non, mais qui permet pas de lutter contre les GAFA. L'objectif n'est pas de lutter contre les GAFA, mais c'est d'être une alternative qui permette d'avancer d'autres arguments devant les annonceurs. Qu'est-ce qu'ils attendent, les annonceurs? Ils attendent de l'efficacité avant tout. Donc ça veut dire de la mesure également, et ça veut dire de la cette espèce de qualité qui va nous permettre derrière d'avoir cette loyauté et de permettre de mieux délivrer sur toute la chaîne de valeur, et qu'in fine, c'est le consommateur lui-même qui va comprendre que, quelque part, tout ça est beaucoup plus, a beaucoup plus de valeur pour lui en tant que client, en tant que consommateur, dans la vie de tous les jours, quand il perçoit ce message publicitaire qui lui arrive.
Est-ce que le fait que certaines marques reprennent tout ça en interne, c'est pas le symbole même du fait que finalement, votre position, elle est aujourd'hui tellement stratégique qu'ils n'ont plus envie de la déléguer?
Oui, c'est effectivement un très bon point. Il y a des annonceurs qui, sur certains métiers, comme, ça a commencé par le social, le community management. Là, on est à d'autres métiers comme effectivement la data, qui sont des éléments très stratégiques, qui sont des éléments qui engagent l'entreprise, qui ne sont pas uniquement des éléments publicitaires qu'on peut effectivement déléguer. Je pense que ce mouvement de collaboration, il lui faut un chef d'orchestre. Voilà. Et c'est en cela que les agences médias peuvent être, et c'était le principe de ces rencontres, qui avait été pensé par notre président Raphaël Deandréis, autour du concept d'être des architectes de la simplicité. Alors, être des architectes de la simplicité, c'est pas forcément dire qu'on peut tout faire tout le temps, et que c'est une sorte de package qu'il faudrait prendre comme ça en bloc. Non, pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'être dans notre rôle de conseil, avec un leadership une connaissance sur l'amont et sur l'implémentation qui permettent d'être à la fois incontournable parce qu'il y a une expérience, on sait, on a fait, voilà, il y a toute cette approche test and learn, il y a des choses qui ont été bien faites, mieux faites que d'autres, et d'autres moins bien faites. L'idée, c'est de pouvoir être en capacité d'accompagner leurs annonceurs dans leurs défis. Leurs défis, ils sont énormes aujourd'hui. C'est une jungle incroyable. Le digital, comme on dit, enfin, cet nouveau paysage médiatique, plutôt, a complètement rebattu toutes les cartes. Et effectivement, encore une fois, notre cœur de métier, nos atouts principaux, c'est le conseil, c'est la technologie et c'est la data. Et ça a toujours été le cas, même quand il n'y avait pas de digital et d'évolution technologique telle qu'on l'a aujourd'hui. C'était déjà le cas quelque part, d'une certaine manière, il y a plusieurs années.
Merci beaucoup Thomas Jamais. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'UDECAM.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et aujourd'hui, le retour de notre chroniqueur masqué, Joe Lapompe.
Joe Lapompe, Joe avec qui on va parler de la journée de l'égalité des droits de la femme du 8 mars, qui a donné lieu à énormément de communication, mais pas forcément très originale à en croire vos expériences.
Oui, il y a eu tellement d'agences, de marques qui ont voulu rebondir sur l'événement que j'ai l'impression qu'ils l'ont fait très ou trop rapidement. Et il y a beaucoup de choses qui avaient un sérieux goût de déjà vu. Notamment une campagne que j'ai repérée au Pérou où ils ont fait des billets, ils ont féminisé des billets de banque. À la place d'un homme, ils ont mis une femme et ils ont changé du coup le montant du billet. Au lieu que ce soit un billet de 15, ils ont mis un billet de 14 et des poussières pour dénoncer les inégalités salariales. Le problème, c'est qu'un rapide coup d'œil dans mes archives m'a permis de remarquer que ça avait déjà été fait, non pas une fois, mais déjà au minimum deux fois, dont une fois au Brésil et une fois aux États-Unis. Où ils avaient fait la même chose avec un dollar, un billet de 10 dollars qui a été transformé en billet de 9 et des poussières. Voilà, ouais.
Et puis alors, McDo se copie lui-même maintenant.
Oui, alors c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Malheureusement, ils se sont fait vendre la même idée par deux agences différentes. Alors, ils ont... cette année fait une opération pour la journée de la femme et ils voulaient mettre à l'honneur une afro-américaine qui détient 19 ou 18 restaurants McDonald's aux États-Unis et donc elle s'appelle Patricia Williams, donc son nom finit par un W et en plus W comme woman, et donc ils ont retourné l'enseigne de McDonald's en la mettant à l'envers, sauf que McDonald's avait déjà fait ça aux Pays-Bas, ils avaient retourné leur enseigne en faisant un W pour souhaiter la bienvenue au King Willem, le roi des Pays-Bas, qui faisait une visite dans la ville où il y avait ce McDonald's.
C'est le problème d'avoir beaucoup d'agences, en fait.
C'est ça. Merci beaucoup, Joe Lapompe.
Voilà, merci.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Le zoom du jour autour d'un mot compliqué, la crafterisation. Frédéric, on va en parler avec Nicolas Morand, planeur stratégique senior de l'agence Australie. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Jocelyne Henry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du développement international de Lonsale, une agence de design et de branding. D'abord, Nicolas Morand, c'est quoi la crafterisation ?
Alors la crafterisation, en fait, c'est une tendance qui s'est construite en réponse aux attentes grandissantes des consommateurs d'avoir plus d'authenticité, de réel, de proximité avec les marques. La manière dont ça s'est traduit, c'est un renversement des valeurs sur les secteurs qui sont concernés, où on va passer de valeurs qui auparavant, les valeurs industrielles, étaient gages de qualité, donc une standardisation qui allait être gage de qualité et qui va être un peu mise au banc de la consommation, et on va favoriser des valeurs qui vont plus être des valeurs d'artisanat, de proximité et de fait main.
Alors comment ça se traduit dans le design, Jocelyne Henry ?
Alors justement, chez Lonsdale, nous, notre rôle, c'est vraiment de travailler sur les marques et d'identifier cette singularité à la fois dans leur positionnement et leur expression visuelle. Donc dans le design, ça va se traduire par des signes qui justement vont incarner ce fait main, ce savoir-faire. Donc par exemple, des typographies manuscrites, des ingrédients qui vont être jetés de façon plus spontanée sur des packaging, des labels, de la mise en avant d'une origine, qu'elle soit géographique ou historique. Tout ça participe effectivement à créer de la proximité avec le consommateur et une certaine connivence.
Frédéric.
Alors, Nicolas, le paradoxe, c'est que, en fait, ce packaging, si on en reste juste au packaging, il est plus brut, il est plus généralement, voilà, c'est du carton, du papier, les points de vente sont plus naturels, et tout ça, en vrai, c'est pour vendre plus cher. Et,
alors ça dépend en fait, ça dépend beaucoup du secteur, ça dépend des marques qu'on va considérer. Les crafterisations en fait trouvent souvent leurs origines avec justement ces marques artisanales. Si on prend le secteur de la bière, qui est celui qui a le plus développé cette pratique, on a eu vraiment des codes qui sont issus des matériaux qu'ils avaient et des manières dont ils avaient de travailler. Ensuite, ça a été inspiré pour les marques plus industrielles qui les ont bien sûr copiées. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a, à chaque fois qu'on a une craftérisation d'un secteur, on a les petits acteurs artisanaux qui vont créer les codes référents et les industriels qui vont surfer dessus après.
Mais ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que c'est un retour en arrière à des choses plus anciennes, plus traditionnelles, plus basiques, entre guillemets, ou il y a quand même une part d'innovation dans la craftérisation ?
Alors, c'est souvent associé à des codes nostalgiques, effectivement, qui rappellent un peu l'ère pré-industrielle de la manufacture. Mais il y a de l'innovation parce que on redécouvre des ingrédients, on redécouvre des savoir-faire, donc c'est une façon d'innover. Et puis, on va avoir recours à des associations plus insolites, on va avoir recours à des matériaux qui ont été oubliés, qui vont être réinterprétés de façon plus innovante. Donc oui, on n'est pas seulement dans l'entend le passé, on peut effectivement être complètement dans l'innovation.
C'est une forme en fait de respect de la tradition et d'irrespect en même temps. En fait, on va prendre les codes existants, on va les casser, on va redécouvrir le secteur par un nouveau biais.
Sur les produits, d'accord. Ouais, sur les points de vente, il n'y a pas un risque malgré tout de standardisation, ou en tout cas. Tout le monde se met à vouloir faire ça, avoir des points de vente très naturels avec du bois non traité, des briques, des pierres, des choses comme ça. Du coup, il n'y a pas un risque que tout ça, ça se ressemble et qu'on ne s'y retrouve plus.
Alors, c'est effectivement un des enjeux
un
d'aujourd'hui.
Un peu contradictoire avec
les
logos et la signification des marques.
C'est effectivement un des enjeux, puisqu'aujourd'hui, on est dans une tendance lourde. Donc, effectivement, tout peut avoir tendance à se ressembler. La créativité n'a pas de limite. Donc, effectivement, un des objectifs, c'est comment exprimer ce phénomène et cet intérêt des consommateurs pour ce savoir-faire, tout ce dont on parlait, mais l'exprimer de façon différente et permettre à chaque marque d'exprimer sa singularité.
Est-ce que il y a d'autres secteurs, là on parle visiblement de l'alimentaire essentiellement, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont touchés par la crafterisation, Nicolas Morin ?
Oui, alors de plus en plus, on a la beauté en ce moment qui est beaucoup touchée, avec des marques comme Aesop qui se débrouille très bien, ou The Original qui lui met un focus sur la composition de ses produits et c'est tout. Donc ça fait réponse en fait aux attentes d'innocuité, de naturalité des produits qu'on va utiliser. Et si on creuse encore, même dans l'industrie des deux roues, les motos, ça fait longtemps qu'on a cette tendance de crafterisation.
Comment ça, les motos ?
Les motos. On va avoir des ateliers de customisation, de craft, de son deux roues.
Ah, Frédéric, vous y connaissez mieux quoi.
De plus en plus.
Une marque comme Kiehl's, par exemple, est un bon exemple aussi d'une marque qui a pratiquement créé, enfin, aussi à l'origine du départ de cette tendance dans l'univers de la cosmétique.
Enfin, moi, j'ai un petit point quand même, c'est justement sur le départ de la tendance. J'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe, que le premier qui a fait ça, c'est pas une petite marque, c'est Nestlé avec le chocolat noir. Ça fait quand même, je sais pas combien de temps qu'ils le font, quoi. C'est vrai.
Ouais. Alors, Nestlé Dessert, c'était beaucoup appuyé, en fait, mais plus sur le côté fait main pour vraiment rappeler cette notion de cuisine et de faire en famille, avec la plateforme qu'avait lancée aussi la table à dessert pour pousser justement toute cette pratique. Mais on voit que même eux se remettent en question avec les produits qu'ils lancent, Nestlé L'Atelier, où il y avait cette recherche du défaut. En fait, dans la tablette, le défaut devient une preuve de qualité,
une preuve
de fait main et de savoir-faire.
D'accord. Et c'est un peu artificiel quand même, on est d'accord.
Quand les marques industrielles s'y mettent, ça peut parfois avoir un côté artificiel. Le plus important, c'est de se souvenir que le consommateur, il n'est pas dupe dans tout ça. Et les marques qui vont se tenter à la crafterisation et qui ne vont pas y arriver sont celles qui l'auront fait de manière purement artificielle et purement marketing. La plupart du temps, quand un grand acteur va s'y mettre et va réussir, c'est parce qu'il aura construit une vraie démarche d'entreprise derrière pour pouvoir porter ça.
Est-ce que tout le monde peut se mettre à la crafterisation ? Est-ce qu'il y a des marques pour lesquelles, tout simplement, ça ne marcherait pas, des secteurs qui...
Mais il y a un engagement sur la crédibilité, hein, effectivement. C'est-à-dire que on est quand même dans une tendance qui a son origine à la sincérité, le vrai, l'authenticité. Donc c'est vrai que si on rentre dans cette tendance et qu'on se travestit et que derrière on n'a pas de crédibilité, effectivement il peut y avoir un effet boomerang. Donc,
il y a un secteur qui essaye depuis longtemps maintenant de se craftériser et qui n'y arrive toujours pas, c'est l'eau en bouteille. On va avoir c'est régulièrement vrai. Ces nouvelles ouais. marques qui arrivent en parlant d'eau de glacier, en parlant de petites sources. Mais les personnes, pour le coup, là, ne sont pas prêtes à payer l'écart de prix proposé.
Merci beaucoup à vous deux, Nicolas Morand, planeur stratégique senior de l'agence Australie, et Jocelyne Henry, directrice du développement international de Lonsdale, agence design et branding.
Merci.
Merci.
BFM Business, Hebdo.com, Solutions Mailing.
Nouvelle rubrique aujourd'hui, hein, qui va revenir régulièrement dans Hebdo.com autour de l'innovation dans le mailing. Et pour inaugurer cette rubrique, aujourd'hui, nous sommes avec Pauline Rory. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing de Thomas Cook France et vous venez nous parler d'une opération que vous avez mis en place récemment, un mailing premium avec les plus beaux itinéraires de votre tour opérateur Jet Tours pour la période 2017-2018, c'est ça?
Exactement. On voulait vraiment innover, surprendre nos clients avec un outil qui allait sortir de l'ordinaire. C'est vrai que d'habitude, on a accès à un certain nombre de plateformes, d'outils de communication, oui. évidemment, le mailing, l'emailing, le SMS enrichi, etc. Et là, on s'est dit, même si le mailing adressé pour nous représente un coût qui est un peu supplémentaire, on s'est dit qu'on voulait émerger, on voulait vraiment entretenir une relation bien particulière avec nos clients. Et du coup, on s'est aussi beaucoup inspiré des codes du luxe avec ce mailing que vous voyez sûrement à l'écran. On a travaillé avec notre agence Le Goff et Cabara et aussi avec notre imprimeur. Donc ce mailing, vous verrez, il reprend les codes de la carte postale.
Oui.
Notamment, on a fait des choix sur la typographie, on a fait une série de faux timbres. On a aussi une dorure à chaud sur le recto de la carte.
Ah oui, alors avec des idées de circuit, c'est ça
Voilà, avec nos idées de circuit, exactement. Donc, on est en plein dans les codes du luxe. Et l'idée, c'est vraiment de donner envie de venir en agence pour se renseigner sur un circuit et d'avoir vraiment un déclencheur.
Et comment vous avez fait pour choisir vos cibles? Et puis, à quel cas, enfin, vous avez envoyé toutes les cartes postales à tous vos clients, ou vous avez fait des choix?
Alors, c'est vrai qu'on a exploité aujourd'hui le big data. Donc, on a aujourd'hui dans nos CRM un certain nombre d'informations sur nos clients. On a ciblé les 10 000 clients qui avaient, soit qui étaient déjà partis en circuit avec nous, ou alors qui avaient une appétence sur le circuit et qui avaient aussi, quand même aussi un panier moyen qui allait, habituel, qui allait leur permettre
de s'offrir ce genre de voyage.
D'accord. Exactement. Donc, on a ouvert nos bases de données et on a sélectionné les 10 000 clients qui étaient le plus susceptibles d'acheter, voilà, dans une relation vraiment très one-to-one, et aussi ça s'inscrit, c'est vrai, dans un parcours client très spécifique.
Comment est-ce qu'ils ont réagi, justement, vos clients?
Alors, on a eu vraiment un accueil assez formidable. On n'était pas du tout dans une logique héroïste, même si ça peut complètement surprendre que je dise ceci à la télé. Mais vraiment, avec ce mailing, on était plutôt dans une logique autour du storytelling aussi et du contenu de marque pour créer vraiment, avoir un brise-glace un peu différent. Donc, on a vraiment eu des gens qui sont venus dans nos agences de voyage avec ces cartes postales et ça nous a permis de commencer une conversation un peu différemment et de faire des ventes.
Justement, est-ce que vous avez un chiffre de retour sur... Je sais que vous avez dit que ce n'était pas votre priorité, mais de retour sur investissement?
Non, j'ai même pas de chiffre parce que c'est vrai que ce mailing, il a eu lieu en octobre et qu'on est vraiment sur une logique beaucoup plus long terme et en fait, on n'a même pas cherché à avoir des chiffres.
Alors, selon vous, pour terminer, quels sont les points forts de cette opération? Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Alors, les points forts, c'est vraiment... on a voulu créer un genre de mailing qui était comme un cadeau. Ouais. Un véritable outil d'image pour personnaliser la relation avec nos clients, les surprendre et les emmener avec nous en voyage.
Et vous avez réussi alors?
Ouais.
Merci beaucoup Pauline Rory. Je rappelle que vous êtes la directrice marketing de Thomas Cook France. Et merci également à Frédéric Roy et Dame m'avoir accompagné comme chaque semaine pour cette nouvelle émission d'Hebdo.com. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, évidemment, vous nous retrouvez en replay et en podcast sur notre site internet bfmbusiness.com.
tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.